Vous écoutez RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h43, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Bruno Retailleau.
Bonjour Bruno Retailleau.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio au lendemain de ce tsunami concernant votre candidat. Vous êtes un des plus proches de François Fillon. C'est un obstiné au-delà du raisonnable ou un résistant sous pression judiciaire?
Non, c'est un combattant, c'est un résistant, il l'a indiqué lui-même. Il a d'ailleurs utilisé ce mot de résistance. Il a constaté qu'on lui appliquait une procédure qui était anormalement véloce, rapide. Il a le sentiment de ne pas être traité comme n'importe quel justiciable. Et surtout, il ne veut pas que le peuple de France, notre électorat de droite et du centre, se fasse confisquer une élection présidentielle qui est sans doute la plus importante depuis une quarantaine d'années.
On va y revenir sur tout ce que vous avez dit à l'instant, mais d'abord, encore un mot. Qu'est-ce qui le guide? C'est l'orgueil, la fierté, la conviction qu'il n'y a pas de plan B, tout simplement?
La conviction qu'il lui échoit de porter des convictions, de porter des valeurs, celle d'une famille politique qui doit être représentée à la présidence de la République et à l'élection présidentielle. C'est cette idée aussi qu'il n'y a pas de plan B. S'il y avait eu un plan B, vous savez, il y a déjà un mois qu'il aurait été défini ce plan B. Vous savez, il n'y a pas de plan B parce que la famille politique se déchirerait. Et si il y a eu précisément des primaires, c'est pour trancher cette légitimité. Alors, et lui est légitime, puisque près de 4 millions de voix se sont portées sur lui, c'était inattendu.
Oui, c'est ça, c'est là où il tire sa légitimité. Il est dans sa logique, celle de sa conférence de presse du 6 février. Où il avait déjà martelé « je ne me retirerai pas ». Il a envisagé de se retirer tout de même après avoir eu connaissance de sa convocation mardi soir.
Écoutez, lundi soir, vous voulez dire, mais il a beaucoup réfléchi et j'imagine qu'on est habité par des doutes, évidemment, mais son devoir, c'est d'aller de l'avant. Voilà, c'est son devoir, c'est de porter des valeurs qui sont des valeurs très françaises, d'attachement à la famille, d'attachement aussi à la France, à la patrie. Et il considère que, comme il n'y a pas d'alternative, c'est à lui de le faire. Vous savez, je pense que dans sa tête, à un moment ou un autre, il a dû se dire la facilité pour moi, c'est de décrocher.
Mais pourquoi est-ce qu'il a organisé ce psychodrame toute la matinée hier? Mercredi, hein. C'était mardi soir, il a eu connaissance de sa convocation.
Pardon.
C'était mardi soir. Mais... pourquoi avoir organisé ce psychodrame toute la matinée, avoir annulé au dernier moment, sans prévenir personne, le salon d'agriculture, cette mise en scène, cette longue attente qui a donné lieu aux rumeurs?
Vous savez, il n'y a pas eu de mise en scène, je vais vous expliquer. Il n'y a pas eu de mise en scène. Tout simplement, il a décidé de ne pas aller au salon d'agriculture, puisque l'avocat avait rendez-vous chez le juge, on savait parfaitement qu'il allait avoir des fuites. Parfaitement,
le
il y a
mardi,
toujours
ça.
Eu, malheureusement, il y a toujours eu des fuites. Et je pense qu'il a voulu consulter. Il a vu d'abord Bruno Le Maire qui a flanché, et il a voulu voir un certain nombre de personnalités de la famille politique. Il a voulu appeler Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, et ça ne se fait pas en quelques minutes, ça se fait en quelques heures. Et c'est après ce mûrissement, c'est après avoir consulté, parce qu'il n'est pas du tout dans une sorte de fanatisme de candidature, il est dans la responsabilité. Il est dans le devoir. Et c'est à l'issue de ce processus réfléchi, raisonnable, qu'il a été convaincu
d'où cette attente, dites-vous.
D'où cette attente.
Alors, vous disiez, il proteste contre la vélocité de la justice qu'il caractérise comme étant anormale. Il avait réclamé au départ, on s'en souvient bien, que la justice aille vite, tout en reconnaissant ses erreurs. Aujourd'hui, il lui reproche d'aller trop vite. Il y a une incohérence.
Non, je vais vous dire, de même qu'il avait indiqué que s'il avait été mis en examen, il pourrait renoncer.
Il y a un changement de pied aussi, ça,
on l'avait noté. Non, c'est qu'on a constaté que la procédure qui lui était appliquée était anormale. Vous savez, déjà, un article du Canard enchaîné, le matin, qui donne lieu à une ouverture d'une enquête préliminaire l'après-midi, alors qu'il y a tant d'autres, vous le savez parfaitement, Elisabeth Martichoux, tant d'autres écrits, tant d'autres livres qui sont parus depuis des mois, qui mettent en cause des personnalités, il n'y a pas eu le moindre début de procédure. Première chose.
Vous faites allusion des allusions, mais il faut préciser.
Je ne veux pas faire d'allusion parce que.
Vous faites des allusions.
Mais non, ça m'amènerait à pointer du doigt tel ou tel.
Bah,
et très franchement, je pense que c'est une habitude qui est détestable. Simplement, simplement, je veux simplement dire qu'il est victime d'un deux poids, deux mesures. Ensuite, il y a eu ce fameux. Communiqué du parquet national qui était un communiqué qui n'était pas un acte de procédure, un acte de communication. C'est incroyable. Et c'est là qu'il a été convaincu que malheureusement les règles qui lui étaient appliquées finalement étaient des règles d'exception.
Il ne se considère pas
au-dessus de la loi, mais il ne veut pas non plus être en dessous de la loi.
Mais pourquoi? Il doute par exemple que les magistrats aient pu lire le dossier, il l'a dit hier dans sa déclaration.
Je vais vous donner deux exemples.
Il doute que les magistrats aient pu lire le dossier dans des délais aussi courts. Mais en réalité, ça n'existe pas à l'examen, lire 150 30 pages, ça ne prend pas des semaines. Ça prend
je vais vous donner deux exemples. D'ailleurs, vous m'en donnez un. Lorsque le parquet national financier, contrairement à sa coutume de citation directe, de renvoi auprès du tribunal correctionnel, décide d'ouvrir une information judiciaire contre X, et non pas comme il aurait pu le faire, contre personne dénommée. Qu'est-ce que ça veut dire en droit ? Ça veut dire qu'il n'a pas d'indice grave ou concordant. Ça veut dire qu'il faut pousser l'enquête, qu'il faut faire des investigations, peut-être des confrontations.
Donc vous dites qu'ils n'ont pas encore toutes
attendez,
les pièces.
Attendez, le vendredi soir à 20h, 5 minutes d'ailleurs avant le journal télévisé, 5 minutes, bon, très bien. Et le lundi, le juge, sans aucune investigation supplémentaire, décide d'une convocation pour mise en examen. Il le décide quand ? Il le décide le 15 mars, soit deux jours seulement avant la clôture des parrainages. Comme s'il s'agissait de priver définitivement notre famille politique, lui ou notre famille politique, d'avoir un représentant au premier tour de l'élection présidentielle. Ce sont des questions, moi je ne mets pas en cause la justice. Simplement, dans un état
vous
de droit, on doit pouvoir contester
savoir...
les procédures. C'est
vous
les procédures que nous contestons.
Les juges l'ont convoqué sans savoir, sans avoir réellement connaissance, c'est ce qu'est le mot qu'il a utilisé hier dans sa déclaration. Assassinat politique.
Bien sûr, assassinat, ou tentative.
Assassinat,
parce qu'il n'est pas mort, il est toujours vivant, il va gagner.
Les mots, c'est vrai, sont graves, sont extrêmement sévères. Pour un candidat à la présidence, mettre en accusation le pouvoir judiciaire, batailler contre les juges, alors ça renvoie à Berlusconi en son temps, à Trump, qui n'a pas le même style que François Fillon, je vous l'accorde, mais qui est aussi non. dans cette espèce d'accusation du système. Marine Le Pen, le système, je suis la candidate du peuple contre le système. Vous assumez ça, ces analogies-là ?
Nous assumons le fait de pouvoir contester une procédure qui nous permet d'être une procédure anormalement rapide et qui présente de graves défauts. Ce n'est pas seulement François Fillon qui le dit, ce sont des grands constitutionnalistes, des grands conseillers d'État, des grands juristes. Il y a même un vrai problème, puisqu'on a souhaité purger ces éléments de droit et les juges nous ont refusé de saisir la chambre de l'instruction. C'est quand même grave, il fallait purger ces éléments de droit. Mais je pense que nous sommes respectueux de l'institution judiciaire, la preuve, il se rendra à la convocation des juges. Il n'est pas question de mettre sur la sellette l'institution judiciaire. Mais vous savez, le droit, la justice est rendue par des hommes. Souvenez-vous du mur des cons, syndicat de la magistrature, qui avait affiché des photos, dont l'une du général Schmitt qui a perdu sa fille dans des conditions abominables. On trouve ça normal.
Il va faire siffler les juges dans ces meetings ?
Non, mais il ne les fait pas siffler. Simplement, il souhaite qu'on lui applique une procédure normale. Il souhaite qu'on lui applique une procédure de droit. Les règles de droit ont été violées. Par exemple, le secret de l'enquête qui a été violé. Monsieur Urvoas, qui donne à temps et à contre-temps, le garde des Sceaux, qui dit allez-y les juges, il faut aller vite, et qui en même temps oublie de rappeler les règles fondamentales de la présomption d'innocence et surtout de la violation du secret de l'enquête.
C'était dans le JDD la semaine dernière. Bernard Accoyer était dans le studio, à votre place exactement. Exactement hier matin, le patron de votre parti, il a quitté le studio et ensuite il est allé voir François Fillon et lui a conseillé de lâcher. Le parti craque ?
Non, vous savez, dans les difficultés, vous avez, et dans la tempête, je suis vendéen, voilà, on vient de connaître un très beau Vendée Globe. Mais dans la tempête, il y a des gens qui tiennent et des gens qui tiennent moins. Il y a des gens qui s'interrogent, il y a des gens qui doutent, mais qui n'a jamais été habitué par le doute.
Ils sont moins courageux.
Je ne veux pas parler de jugement de valeur. Simplement, il y a des natures humaines différentes. Et il y a aussi des doutes et il y a des interrogations. Et je ne refuse à personne le fait de pouvoir s'interroger. Simplement, ce que François Fillon, précisément, a voulu, notamment lorsqu'il va inviter les Français et les Françaises sur la place du Trocadéro, c'est dimanche à 15h, c'est de dire « Désormais, je suis dans une posture gaullienne. Désormais, je suis le candidat de la famille politique, régulièrement, légitimement investi, et je dois rendre des comptes. » qu'au peuple de France, et à personne d'autre, et à aucun autre parti politique ou personnalité politique.
Ce rendez-vous au Trocadéro, qui est organisé au dernier moment, vous espérez combien de personnes ?
Une foule. Non, je ne peux pas vous dire combien de personnes, vous vous rendez compte, c'est depuis hier, on a quelques jours simplement.
Alors justement,
quelle est la différence entre un rassemblement et une foule ? Il faudrait que ce soit noir de monde, en tout cas.
Pour François Fillon et pour la démocratie, c'est écrit de cette façon-là dans le communiqué que vous avez envoyé aux militants, que vous espérez donc très nombreux. Là aussi, c'est une manifestation aussi contre les juges ?
Écoutez, non. Arrêtons de vouloir tout opposer. On a vécu pas. Non mais
après les termes extrêmement virulents utilisés par François Fillon hier, une virulence Elisabeth quand même extrêmement rare.
Où est la violence et la virulence ? Avez-vous entendu vos confrères, pas vous, mais un certain nombre de vos confrères, supputer, donner de fausses informations, relayer des rumeurs dont certaines était à la fois
la
violente et stupide.
Heures,
eh bien, et pourquoi accuse-t-on? Mais je veux bien qu'on fasse porter le chapeau de toute la misère du monde à François Fillon. Mais très franchement, il faut, dans ces moments-là, remettre un certain nombre de choses au point. Regardez cet emballement médiatique. Regardez cet acharnement judiciaire. Est-ce qu'on ne peut pas s'interroger? Est-ce que le seul fait de se poser des questions, en France, vous condamne à être un dangereux populiste? Non, je crois qu'il faut le faire sereinement, fermement. Il en va de la démocratie française. Et je crois que la question qui se pose aujourd'hui pour ma famille de pensée politique, c'est est-ce qu'il y aura un candidat qui représente nos convictions, nos valeurs à l'élection présidentielle?
Il n'y a pas un petit risque de, en termes de sécurité, ce rassemblement dimanche qui est organisé au dernier moment? C'est vrai que c'est compliqué.
Vous savez, la sécurité, je peux en parler. Je connais la ZAD à Nantes
candidat,
et Nantes, très régulièrement, plusieurs fois par an, le centre-ville est saccagé. Une route départementale est privatisée. Des voitures de gendarmerie sont brûlées. Des brigades de gendarmerie attaquées parce que le gouvernement tolère l'insécurité en France. C'est un gouvernement qui assume un fiasco économique, mais aussi sur le plan de la sécurité.
Encore deux questions très courtes, il n'en reste très peu de temps. La défection de Bruno Le Maire, c'est un coup dur?
Bon, c'est un coup dur, c'est quelqu'un qui quitte le navire, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un... Ça compte pas?
Oui, ça
non, mais
pas,
je le laisse. Bah, écoutez, je le laisse à ses choix. Je simplement, encore une fois, voilà, il y a des gens qui tiennent, d'autres qui ne tiennent pas. Il a fait ce choix. C'est, si j'ose dire, sa liberté. Voilà.
C'est fini, c'est rattrapable. Ce n'est pas rattrapable, pardon.
Oh, vous savez, moi j'ai vécu aux côtés de François Fillon la primaire et j'ai tellement vu des gens qui quittaient, qui revenaient, qui quittaient, qui revenaient qu'il me semble qu'en politique, jamais rien n'est définitif. Il faut toujours être prudent.
Il y aura d'autres défections? Vous vous y attendez?
Non, mais le problème n'est plus celui... Non, peu importe. Peu importe, parce que désormais, la question, c'est François Fillon face aux Français.
Et le programme, espérez-vous, qu'il reprenne le dessus sur toutes ces difficultés?
Bien sûr, parce que c'est la grande question. J'espère qu'on pourra parler du front, parce que... Du Front National aussi, parce que malheureusement, c'est cette question qui se pose. Imaginez un seul instant que notre candidat soit empêché. Qu'est-ce qu'il advient au deuxième tour? C'est la question que je pose. Aujourd'hui, la France est en déclin. Aujourd'hui, il y a un problème d'insécurité. Aujourd'hui, on est en faillite, la dette. Eh bien, seul François Fillon, a la capacité, parce qu'il a l'expérience de gouverner, de diriger la France, et ensuite parce qu'il a un projet pour reconstruire la France pour les Français.
C'est le message que vous espérez faire émerger aujourd'hui. Merci Bruno Retailleau.
Nous assumons de contester une procédure inhabituelle. Les règles de droit ont été violées, et en particulier celle du secret de l'instruction, vient de nous dire Bruno Retailleau. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr dans son intégralité.